Les sept vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical Marc Evea et Clément Péfer. C'est une émission produite par atoutboutdechamp.com.
La vie c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri. Il faut vous l'arracher, la vie.
Olivier Ninge, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre « La vie, c'est comme une dent » de Boris Vian pour introduire cette nouvelle émission sur les sept vies de Serge Reggiani. Je rappelle que passionné par la chanson française, vous participez depuis plusieurs années à des spectacles musicaux en tant qu'acteur-chanteur.
Oui, tout à fait. Et j'ai eu le plaisir de créer un spectacle musical qui nous intéresse particulièrement ici, intitulé « Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante ».
Alors pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce spectacle et écouter les émissions précédentes, je leur conseille d'aller sur le site www.atoutboutdechamp.com. Olivier Ninge, je vous propose de continuer l'exploration des sept vies de Serge Reggiani.
Bien volontiers, mais commençons par un petit rappel de ce que nous avons dit jusque-là. Donc Serge est né le 2 mai 1922 à Reggio d'Emilie, en Italie, et il est issu d'un milieu plutôt modeste, avec des parents, tous les deux coiffeurs.
Sa première vie, donc, fut une enfance italienne.
Eh oui, et pour fuir le fascisme de Mussolini, il quitte l'Italie pour la France à l'âge de 8 ans, et donc sa deuxième vie est celle d'un émigrant dans les années 1930 confronté à la xénophobie. Très rapidement, la famille quitte Yvetot pour Paris, où Ferruccio, le père de Serge, ouvre un salon de coiffure au Faubourg Saint-Denis. Et à l'âge de 14 ans, Serge quitte l'école pour faire un apprentissage dans la coiffure.
Donc sa troisième vie est celle d'apprenti coiffeur.
Oui. Et il se rend compte très vite que devenir coiffeur n'est pas sa vocation. Il commence à faire de la figuration au théâtre Mogador, puis au théâtre du Châtelet. Il prend goût à ce métier de comédien et s'inscrit au Conservatoire National d'Art Dramatique.
Et donc, quatrième vie, celle de comédien couronné de succès.
Tout à fait. Et en 1940, c'est la guerre, l'occupation. Alors il doit survivre en trouvant des petits rôles. Mais en 1943, Léo Johannon va lui proposer son premier grand rôle au cinéma dans Le Carrefour des enfants perdus.
Oui, si je comprends bien, il commence sa cinquième vie pour devenir l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français.
Oui, et il fait coup double, car sur le tournage, il rencontre sa première femme, la comédienne Jeannine Darcet.
Mais Olivier Ninge, qu'en est-il de la vie professionnelle de Serge ?
Comme je vous l'indiquais dans notre dernière émission, sa quatrième vie de comédien et sa cinquième vie d'acteur de cinéma vont s'entremêler. Par exemple, côté théâtre, il va interpréter Kalaïef dans Les Justes de Camus. Et côté cinéma, il va interpréter Manda dans Casque d'or de Becker.
De beaux succès professionnels, à vrai dire.
Exactement. En revanche, c'est dans sa vie conjugale avec Jeannine que les choses se compliquent. Et il divorce en 1955. Bon, il faut dire que dans les années 50, Serge fréquentait plus les bars que le domicile conjugal. Ce n'est sans doute pas un hasard s'il chante plus tard ce très beau texte de Bernard Dimet, « Si tu me payes un verre ».
Je vous propose d'en écouter une version tirée de votre spectacle « Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante ».
Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie ou si tu n'en as pas. Si tu traînes tout seul avec un cœur en panne, je ne te dirai rien, je te contemplerai. Nous dirons quelques mots en prenant nos distances. Nous viderons nos verres et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée. Je réinventerai des sourires de gamin, j'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes. Je te les offrirai en te serrant la main. Il ne te reste plus qu'à passer la commande. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas. Comme lui, je dirai de vérité première, il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a, et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrai pas de n'être rien du tout, je ne suis rien qui vaille. Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout. Tu seras mon ami, au moins quelques secondes. Nous referons le monde aussi lent mais debout. Heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi rond qu'elle et qu'on s'en porte bien. Tu cherchais dans la foule une voix qui réponde, alors paye ton verre et je t'aimerai bien. Nous serons les cocus les plus heureux du monde.
Ah oui, si tu me payes un verre. Faut dire que depuis 1952, Serge fréquentait La Fontaine aux Quatre Saisons, un cabaret poétique dont la maxime était anarchie, humour et volupté. Tout un programme. C'était un lieu fréquenté par les artistes du cinéma, du théâtre, de la chanson, aujourd'hui on dirait les VIP. Pierre Prévert en était le directeur artistique et son frère Jacques y créait des spectacles. De nombreux artistes y ont fait leur début. Barbara passa une audition. Mais la programmation de l'année étant déjà faite, elle se vit offrir une place de plongeuse pour une année et put ainsi rencontrer et observer, sans jamais chanter, par exemple Boris Vian, c'était un habitué des lieux. Il y avait aussi Henri Crolla et Louis Bessières, ou encore Marcel Mouloudji, Guy Bedos, Philippe Clay, Jean-Yann, Jacques Dufilot, et j'en passe, c'est les meilleurs. Serge, lui, va rencontrer une femme, la comédienne Annie Noël, avec laquelle il va jouer dans Les Trois Mousquetaires. Et il dira plus tard, Annie m'a attiré par son côté intellectuel et cultivé. Et un beau jour, ben, je suis parti avec. Pour Annie, c'était le coup de foudre. Elle raconte dans une interview qu'à l'époque des Trois Mousquetaires, Serge l'a embrassée sur scène pendant le spectacle et elle a failli s'évanouir.
Alors ça devait finir par un mariage.
Bien sûr. Il épouse Annie Noël en 57 et le premier fruit de leur amour arrivera rapidement car leur fille Célia va naître en 1958. Cette nouvelle relation avec Annie lui permet de revenir à une vie plus stable. Il revient à ses premières amours, la poésie et le théâtre. À cette époque, c'est aussi la guerre d'Algérie, et Serge se sent très concerné par ce drame. Il s'engage en tant qu'artiste pour la cause algérienne, jusqu'à mettre son appartement à la disposition des chefs de Wilaya. Il a même caché chez lui Francis Janson, qui transportait des fonds à destination du FLN. Et Francis a été reconnu coupable de haute trahison et condamné en octobre 1960 à 10 ans de réclusion. Heureusement, il a été gracié à la fin de la guerre d'Algérie.
Il a pris de gros risques pour l'époque.
N'oublions pas qu'il avait fui le fascisme de Mussolini, et puis connu la xénophobie des années 30, et puis la guerre, l'occupation. Alors la souffrance du peuple algérien, ça lui parle. Et ce n'est sans doute pas pour rien qu'il accepte en 1959 de jouer dans la pièce de Jean-Paul Sartre, Les Séquestrés d'Altona.
Que voulez-vous dire par là ?
Cette tragédie a pour thèse, chacun a le libre arbitre de ses actes et doit les assumer. Et Serge, ce fils de Rital antifasciste, exilé à Paris, doit enfiler l'uniforme nazi d'un officier hitlérien déchu et reclus dans sa névrose, en déclamant une périlleuse dialectique sur la responsabilité et la culpabilité historique. Et ce, à une époque où les plaies sont encore béantes, 15 ans après les libérations. Alors ces plaies sont ravivées par la guerre d'Algérie. Autant dire que les séquestrés d'Altona, bah ça a été vraiment l'événement.
En effet, Sergio Reggiani endossera plus de 400 fois l'immonde habit noir de l'histoire.
Eh oui. Et au début, Sartre trouvait que Serge jouait trop romantiquement le rôle de Franz. Il disait « mais on n'a jamais vu un nazi romantique ». Descends chez un opticien, achète-toi un monocle et colle-le-toi sur ton œil. Et bien c'est ce qu'a fait Serge. Et c'était tout à fait ça, dit-il. Sartre avait le don de donner l'indication clé. Instantanément, j'ai bien joué le jeu. Le personnage de Franz von Gerlach que joue Serge sera le rôle de sa vie de comédien de théâtre.
Comme le rôle de Manda le sera dans sa vie d'acteur de cinéma.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est un rôle qui lui demandera un engagement total jusqu'à l'épuisement, tant physique que psychologique. Mais à chaque chose, malheur est bon. Et Serge prétend qu'être allé aussi loin dans l'ascèse et le don de soi lui servira pour donner vie à ses chansons. Il y perdra aussi son amitié avec Jean-Paul Sartre, et les mauvaises langues disent que c'est sans doute à cause d'une femme.
Peut-être que ça ne nous regarde pas ?
Non, ça ne nous regarde pas. En 1960, après cet épisode théâtral plutôt éprouvant, Serge et Annie décident de se mettre au calme. Ils achètent une maison au soleil, un peu paumée parmi les orangers, les oliviers, les cigales, dans les Alpes-Maritimes, avec vue sur la baie de Mandelieu. Là, Serge se ressource, jardine, cuisine, fait ses fameuses pâtes au pistou. Évidemment, il fait suivre Letizia et Ferruccio, ses parents, ce qui ne fait pas forcément l'affaire d'Annie. Évidemment, l'achat de ce bien et les travaux coûtent très cher et Serge, comme il en avait la fâcheuse habitude, dépense sans compter. Heureusement, il y aura Simone Signoret, l'amie de toujours, qui viendra faire un chèque complémentaire. Et c'est dans ce havre de paix que vont naître le frère et la sœur de Célia, Simon, le petit Simon, en 1961, et Maria, en 1963.
Finalement, pour Serge, cette maison en Provence, c'était un petit paradis.
Oui, un petit paradis, mais pour lequel il a dû reprendre du service pour en assurer le train de vie, qui n'était pas vraiment ordinaire. Il a repris le chemin du cinéma français. Il profite aussi de ses origines pour tourner en Italie avec des réalisateurs de talent comme Luigi Comencini. En 62, Serge renoue avec le polar en jouant dans Le Doulos, un film de Jean-Pierre Melville qui raconte une histoire de gangster. Et en 63, il tourne dans Le Guépard, réalisé par Luchino Visconti, une magistrale description de la gestion de la crise que traverse l'aristocratie italienne.
Ce film a d'ailleurs reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes 1963.
Tout à fait. Et en 1964, Serge va tourner dans L'Enfer de Henri-Georges Clouzot, qui raconte l'histoire de la jalousie maladive d'un mari. Pour Serge, ce sera une expérience aussi passionnante que pénible, parce que sur le plateau, Henri-Georges Clouzot avait tendance à être infernal avec ses acteurs. Mais le côté positif, c'est que Serge, en tant qu'acteur, va rencontrer Romy Schneider pour la première fois. D'ailleurs, les mauvaises langues lui prêtent une liaison avec elle, mais ça ne nous regarde pas.
Olivier Ninge, merci. Nous arrivons à la fin de cette 7e émission sur les 7 vies de Serge Reggiani. Alors, dites-nous en quelques mots ce que vous allez aborder dans la prochaine émission.
Je veux aborder sa 6e vie, celle d'un comédien qui chante, donc à très bientôt sur cette antenne.
Oui, à très bientôt et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent en savoir plus sur votre spectacle « Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante » et retrouver les émissions précédentes en allant sur le site www.atoutboutdechamp.com. C'était les 7 vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical, Marc Evea et Clément Péfer. C'était une émission produite par atoutboutdechamp.com.